Trisac. L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Ah oui, mercredi 27 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à l'émission. On va parler de l'amnésie de Jean Chrétien à 12h15. Aussi à 11h15, on aura aussi l'état des paramédics. Là, on parle des médecins. Les médecins. On a parlé un peu des infirmières, le temps supplémentaire obligatoire, les infirmières, préposés aux bénéficiaires, on en a parlé aussi. Mais là, les paramédics, quand vous en pétez une à la maison, vous avez beau avoir le meilleur spécialiste, le Carey Price des pontages cardiaques, si on vous amène pas à l'hôpital en bon temps, vous allez crever. Et ça repose sur les épaules des paramédics qui, je lisais ce matin, j'avais oublié ça, font au maximum 35$. 35$ pour venir chez vous, pour voir des horreurs comme la petite fille qui a été tuée à Granby. Des paramédics aussi qui l'ont vu, disent, ça n'a pas de sens de sous-payer des gens comme ça qui font un travail essentiel dans le système de santé parce qu'ils n'ont pas le bon lobby derrière eux pour pousser leurs conditions de travail. Il y a pas de collège des médecins, il y a pas la FIC, ils s'arrangent avec leur sagramouille de problèmes. Donc on va en parler à 11h15. Tout d'abord, on va parler d'un sujet qui était publié hier, mais hier c'était le nouveau conseil des ministres à Ottawa, des belles surprises, on en reparlera. Il y avait une nouvelle moi qui a attiré mon attention, c'est à propos du nombre inquiétant de photos intimes publiées. Les selfies, des photos, environ 20% des adolescents du secondaire en auraient reçu au détriment de qui? Je pose la question à Myriam Leblanc-Hilly, sexologue et chargée de projet à la Fondation Marie-Vincent. Madame Leblanc-Hilly, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Bienvenue. Juste avant qu'on parle de tout ça, là, expliquez-nous ce que fait la Fondation Marie-Vincent dans le dossier.
En fait, la Fondation Marie-Vincent, on a tout un profil où on vient en aide aux victimes de violences sexuelles, les enfants, les ados, qu'on reçoit chez nous pour leur offrir des services. Mais on a également tout un volet prévention où on est dans les écoles, on forme le personnel scolaire à venir en aide ou à intervenir dans des situations comme celle-là. Donc, on a comme ces deux volets-là.
OK. Donc, hier, on apprenait qu'il y a un adolescent sur 5 à l'école secondaire qui aurait déjà reçu l'image intime, photo de nu probablement, là ou autour d'eux, d'une personne qui n'y consentait pas. C'est pas juste qu'il n'y consentait pas, c'est souvent des mineurs. D'abord, faut comprendre pourquoi ça se fait, pour séduire, pour se faire aimer, pour être cool, pour défier l'autorité qui leur dit de pas le faire. Expliquez-nous.
Ben, vous avez tout à fait raison. C'est toutes des bonnes raisons qui sont souvent évoquées par les jeunes. Oui, il y a un effet de séduction, il y a un effet de faire comme les autres. C'est aussi une forme d'expression de la sexualité qui est banalisée chez les jeunes. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser cette forme d'expression-là, d'envoyer des photos. Là où le bas blesse, c'est quand ces photos-là sont repartagées à d'autres. Puis c'est ça nos chiffres de la Fondation Marie-Vincent qui témoignent, c'est que les photos ne restent pas, malheureusement, ils ne restent pas dans le cadre intime d'une relation amoureuse, entre partenaires, tout ça. Elles sortent souvent de la relation, elles sont diffusées à d'autres, et c'est ça notre chiffre, un jeune sur 5. C'est des photos qui circulent d'une personne qui n'est pas au courant ou sans sa permission, puis qui peuvent faire le tour de l'école. Donc, c'est sûr qu'on est préoccupé là par ce phénomène-là.
Et il y a des conséquences, Mme Leblanc-Hilly, à cette situation-là, là, à la diffusion de photos intimes, qu'on peut s'entendre, généralement, c'est une fille qui envoie un gars.
Ben, oui, ça fait partie des cas de figure, puis c'est souvent ceux-là qu'on entend d'une photo d'une jeune fille qui est envoyée dans le cadre d'une relation amoureuse. Après, on a une rupture, puis la photo circule par la suite par vengeance ou à tomber entre les mauvaises mains. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres situation. Il peut avoir, ça peut être des photos de garçons qui circulent, ça peut être des photos de pénis, ça peut être des photos d'activité sexuelle ou d'une activité dans un party qui a dégénéré, qui implique plus qu'une personne. Donc oui, il y a un profil un peu qu'on entend plus parler, mais il y en existe d'autres. Puis effectivement, oui, il y a des conséquences pour les jeunes, entre autres au niveau légal, mais aussi dans leur vécu. Là, c'est une crise pour eux, c'est une forme de violence sexuelle, de voir ces photos partagées, diffusées à d'autres. Donc, on peut voir des jeunes qui présentent de l'anxiété, du stress, qui vont vraiment pas bien après ça, qui ont des difficultés académiques aussi. Donc, oui, c'est pas léger comme
vous, situation. Vous parlez au niveau légal parce que ça devient de la pornographie juvénile, de la distribution de pornographie juvénile.
Oui, ça peut être considéré comme tel. C'est sûr que d'une région à l'autre, là, l'application légale, tu sais, c'est les procureurs qui vont choisir aussi quel chef d'accusation utiliser. Mais il y a aussi un article spécifiquement pour la publication non consensuelle d'images intimes, qui est un article de loi qui vraiment vise à encadrer ça. Donc, quand la photo est dans un cadre intime, une attente de vie privée et que cette photo-là est repartagée, ben on est en infraction de cet article-là. Puis ça s'applique autant aux jeunes qu'aux adultes. On a entendu parler du phénomène du revenge porn aussi, ouais, qui est entre adultes. Donc, cet article-là vient toucher tout ça en même temps. Mais oui, il y a la pornogénèse qui peut se rajouter dans certains cas aux accusations.
OK. Par quel bout on prend ça, cette question-là de, c'est quoi, de l'exhibitionnisme, c'est la diffusion de photos intimes? C'est culturel, c'est sexuel, c'est comment on aborde ça?
Ben, en fait, là, nous, ce qu'on a identifié comme avenue vraiment prometteuse pour diminuer le phénomène, parce que c'est un phénomène qui est quand même récent, mais qui prend beaucoup de place dans la vie de nos jeunes, ben, c'est de les impliquer eux-mêmes, les jeunes, dans la recherche de solutions. On le sait, l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité, hein. Les jeunes prennent des risques. C'est pas nouveau. On en prenait nous autres aussi, là, mais on n'avait pas de téléphone dans nos poches à cette époque-là.
C'est ça.
Mais c'est aussi une période où les jeunes, ils développent, ils renforcent leur pensée critique et leur empathie. Et donc, on peut les impliquer plus, on doit le faire, les impliquer dans des projets de présentation comme nous, on le fait à la Fondation.
OK, mais je vous arrête, Mme Leblanc-Élie.
Oui,
je suis en train de vous dire oui, vous avez raison. Puis en même temps, je vais vous dire non, vous n'avez pas raison. Puis je veux juste vous dire ça, là, amicalement. Là, nous autres, là, OK, il n'y avait pas de photos, mais tu sais, on savait que si tu vas courir dans la deuxième voie sur l'autoroute 15, tu risques de te faire frapper. Et il me semble que là, ça fait assez longtemps, fait assez de fois qu'on dit « Envoyez pas des photos de vos fesses, de vos seins, de votre pénis, de votre vulve à quelqu'un, c'est sûr que ça va être diffusé largement. » Comment ça se fait qu'on comprend pas le message? Ou parce que le message est pas assez diffusé? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans?
Mais en fait, moi, je continuerai avec l'idée que pour l'adolescence, c'est une période de prise de risque. Oui, on savait qu'il fallait pas faire un virage en vitesse et tout ça, mais il y a quand même des accidents de voiture qui impliquent les jeunes. Donc, c'est une période où on se sent invulnérable et on a beau se faire répéter les messages, on pense que ça peut pas nous arriver à nous en tant qu'ados parce que ça arrive aux autres, ça arrive dans les films, puis les adultes en font trop un cas. C'est normal. Donc, nous, notre solution, c'est vraiment d'impliquer les jeunes, mais c'est aussi d'outiller les parents pour s'assurer que les parents puissent continuer de parler à leur ado, continuer de consolider ces idées-là de prise de risque, comment on peut faire. Mais la pensée critique, moi, j'en côtoie des jeunes, là, puis je vous dirais que c'est surprenant. En fait, non, c'est pas surprenant du tout. Ils sont extrêmement intelligents, puis ils sont capables d'identifier des choses. Puis oui, on a un pourcentage de jeunes qui deviennent victimes, mais on en a aussi beaucoup d'autres qui ont le potentiel de devenir des influences positives, qui ont le potentiel de, tu sais, de réfléchir. Ah oui, c'est peut-être pas une bonne idée, effectivement. On a d'autres façons de s'exprimer.
Mais il y en a d'autres qui sont aussi des crapules, surtout des gars en gang. On l'a vu des parties, la fille est saoule, il en profite, il se filme pendant qu'il en profite. On l'a vu, là, Mme Leblanc-Élie, là. C'est pas anecdotique, là. C'est un problème. On peut pas dire que ils sont extraordinaires. Des fois, t'es adolescent, on l'a été, je l'ai été, puis t'es un cabochon. Tu comprends rien, tu comprends pas l'ampleur des gestes que tu poses. Puis ça, on dirait que le message passe pas, là. Je comprends qu'il faut pas être traité de cabochon, mais il faut traiter les gars qui se comportent en crapule, en crapule.
Ben, en fait, moi, je dirais avec une approche un petit peu plus nuancée de ce côté-là pour s'assurer que que les jeunes garçons soient soient au courant des conséquences, qu'ils soient sensibilisés à cette situation-là.
Il n'y en a pas de conséquences. Il n'y en a pas, vous savez, ils font des travaux communautaires. Il n'y en a pas de conséquences, c'est ça le problème. Puis la fille, elle, est humiliée, la photo est diffusée, les gars, ils rient, puis là, ils se font attraper, puis ils font des travaux communautaires, puis il n'y en a pas de conséquences.
Mais écoutez, moi, je continue de croire que notre meilleur vecteur, c'est de continuer la sensibilisation, la prévention. Mm-hmm. On est encore en train de prévenir, sensibiliser pour l'impact du tabac, pour l'importance de ne pas texter au volant. Pourtant, il continue d'avoir des accidents, des conséquences de ça, mais on continue nos messages. Évidemment, dans un monde idéal, le message entrerait dans tous les cerveaux de la même façon, puis on aurait... Mais mon but, ça serait de plus avoir de job de ce côté-là, mais on n'est pas rendu là. Il faut continuer ces messages-là. Puis oui, il faut cibler les garçons, il faut les éduquer, mais il faut croire aussi à leur potentiel de réaliser ça. Puis on est dans une société qui, malheureusement, met beaucoup la charge aux filles de se protéger, aux filles de dénoncer, alors que oui, on oublie un peu les garçons. Ouais. Comment tu peux être un amoureux exemplaire? Comment tu peux être un camarade de classe qui fait une différence, qui empêche des situations de violence sexuelle? Il y a encore du travail à faire. Puis ouais. Effectivement, il faut les inclure. Il ne faut pas laisser les filles être les seules à devoir se défendre en posture là, de défense.
Tellement, puis je trouve que ça, le message aux gars, il est pas passé. Écoutez, il y a 15 ans, je voulais faire ça aux francs-tireurs, d'amener des gars qui étaient respectés, admirés par les jeunes. Tu sais, t'es choisi en fonction de la culture dans laquelle tu vis, puis t'es amène dans les écoles, tu les incites à se comporter comme du monde, à être le bon gars, pas le tata, pas le cornichon, mais être le bon gars, celui qui a quelques principes et qui va dire aux pas fins, au trou de cul, de pas se comporter en crapule. Puis ça, c'est important, mais on l'entend pas, ce message-là, qu'on devrait envoyer aux garçons.
Mm-hmm. Ben nous, c'est ça qu'on tente de faire. On a un projet en cours actuellement qu'on implante dans plusieurs écoles où on choisit des jeunes, garçons comme filles, pour devenir des pères formateurs où eux, ils vont aller animer des ateliers, parler entre jeunes, la prévention entre jeunes. On y croit, on pense que ça va faire une différence d'avoir en avant de ta classe un jeune homme de secondaire 5 de l'équipe de foot qui dit, tu sais, envoyer des photos intimes, c'est pas une bonne idée pour telle ou telle raison, mais qu'il y a une perspective critique. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important pour nous, les likes dans les réseaux sociaux? Donc, notre programme de prévention, il vise ça, puis parce qu'on y croit que garçons comme filles, vieux comme jeunes, on a quelque chose à dire, puis c'est les premiers concernés, nos jeunes. Donc, on doit les impliquer là-dedans, là.
C'est bien bon, ça, d'amener les plus vieux au secondaire, parler aux plus jeunes, c'est une bien bonne idée. En conclusion, Mme Leblanc-Élie, comme parent, là, comment on fait pour aborder la question, puis avoir une conversation avec nos ados là-dessus?
Mais en fait, moi, ce que je vous dirais, là, c'est l'importance à l'adolescence, c'est de maintenir le lien avec notre jeune, puis d'avoir des discussions fréquentes sur les grands enjeux. Fréquentes, j'entends là-dedans qu'il faut en parler assez souvent pour que le climat soit ouvert, sans tabou. On veut éviter la fameuse discussion sur la contraception qu'on a avec notre ado quand il va avoir 18 ans. Là, c'est trop tard, c'est pas assez. Il faut en parler souvent. Il faut aussi valoriser. T'sais, l'idée, c'est une discussion, c'est de faire un échange, valoriser les perspectives des ados. Vous vous en douterez que je reviens avec ça, que les ados, ils ont de quoi à dire, puis il faut les entendre. Mm-hmm. Si le parent est en posture, fais pas ci, fais pas ça, tu dois te comporter comme ça, on est dans une perspective où on n'échange pas, hein, puis ça, ça fait des yeux au ciel, puis on se fait dire, tu capotes, franchement, c'est pas moi, ça m'arrive pas. Alors que l'idée, c'est d'aller chercher l'ado. Toi, t'en penses quoi de ça? Puis vraiment une question ouverte, tu penses quoi de ce phénomène-là? On peut partir de l'article de journal, ce chiffre-là, ça t'apparaît-tu exagéré, tout ça? Et avec tout ça, le but, c'est de maintenir le lien. T'sais, on le sait, l'adolescence, ça déconcerte les adultes. On le sait pas, là, il est dans le sous-sol, dans le noir, je comprends pas. Mais on se doit de rester présent. Puis pour faire en sorte que le jeune, s'il arrive quelque chose, il va venir nous le dire. À la limite, s'il est témoin d'une situation qu'il touche pas, qu'il voit passer, ça le préoccupe pas trop, il vient pas nous voir. Mais si ça lui arrive à lui, on veut qu'il vienne nous le dire, puis qu'il ait pas peur qu'on lui fasse la morale.
Bon, c'est bien. Là, je sais pas, c'est important et rappelons, faut le rappeler régulièrement parce que les ados, ça pousse, hein. Le message qu'on envoie aujourd'hui, il va falloir le répéter dans un an, dans deux ans, parce que ça se multiplie les ados. Là, je sais pas d'où ça vient. bien, mais il y en a tout le temps. Il n'y a pas de pénurie d'ados. Et tant mieux. Myriam Leblanc.
L'efficience est la clé.
Oui, c'est ça. Myriam Leblanc-Élie, de la Fondation Marie-Vincent. Merci. Bonne chance.
Merci à vous aussi. Au revoir.